Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Bienvenue dans la maison du Seigneur, bienvenue dans ce lieu de prière, bienvenue à ce culte spécial, Église persécutée. Bonjour à tous et que ce moment puisse vous être bénéfique. Et c'est en communion avec plusieurs églises de France et de Belgique. En principe, la date était la semaine dernière. Nous sommes là et nous faisons quand même un peu ce culte. Déjà, c'est la troisième année qu'on fait ça en collaboration avec Porte Ouverte, qui, eux, nous envoient tout un canevas et toute une préparation pour l'Église persécutée. Cette œuvre a été débutée par Frère André. J'ai retrouvé une des dernières photos de lui avec une explication, je ne sais pas si on s'est dit. Plus de 65 ans de passion pour l'Église persécutée. Frère André a fondé Portes Ouvertes en 1955. À Varsovie, il a reçu l'appel de servir l'Église persécutée. Par la suite, il s'est mis au service de ses frères et sœurs persécutés. Au début, dans les pays communistes de l'Europe, puis dans le monde entier. Et son livre, Le Contrebandier, a été publié en 1967 et il s'est vendu à plus de 10 millions d'exemplaires en 35 langues. Il est décédé le 27 septembre de cette année. Son cœur a battu toute sa vie pour l'Église persécutée. Il avait 94 ans. Je vous invite à la prière. Père éternel, nous voulons remettre ces moments entre tes mains, sachant que tu nous as précédés et que tu veux nous bénir. Seigneur, donne-nous vraiment d'accepter et de prendre cette bénédiction, parce que nous sommes tes enfants. Nous sommes tes fils et tes filles, par toi, pas grâce à nos mérites, mais uniquement grâce à toi et par le sacrifice de ton fils. Merci parce que tu es le Tout-Puissant, que tu mets ta main sur nous qui sommes que poussière. Mais combien tu nous aimes. Seigneur, que ce moment soit riche pour nous, mais qu'à toi revienne toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Le moment qui nous est donné est une occasion spéciale de vivre l'unité, non seulement entre nous, mais avec ceux qui sont opprimés. Plus de 260 millions de chrétiens sont fortement persécutés dans le monde. Et c'est proposé une fois par an que les églises se réunissent pour un dimanche spécial, Église persécutée. Et je vous lis le message du directeur de Portes Ouvertes. Ce culte spécial a pour objectif d'unir nos voix et de faire monter nos prières pour les chrétiens persécutés. Pour vous accompagner dans la préparation de ce moment fort, nous mettons à votre disposition une trame de prédication, des sujets de prière, un PowerPoint et une vidéo témoignage. Le dimanche, l'Église persécutée nous rappelle que l'Église, avec un grand E, est présente partout dans le monde, même dans les endroits les plus reculés. Nos frères et sœurs persécutés ont besoin de notre soutien pour faire face à l'oppression grandissante. Dieu nous appelle à prier afin que l'Église persécutée soit fortifiée et devienne victorieuse pour apporter la lumière de l'Évangile. Nous pouvons les aider, mais nous pouvons aussi grandir dans notre propre foi, car leur témoignage reflète la puissance de Dieu. Patrick Victor, directeur de Portes Ouvertes France. Et je vous invite à être attentif à ces messages d'encouragement. Peut-être à un certain moment, ce sera dur à entendre, mais ils ont des leçons à nous apprendre. Et je vous invite à chanter un chant. Tout ce qui est préparé ici nous a été proposé. Quoi. Donc même les chants sont proposés. Quoi. Tous unis dans l'esprit. Lecture du psaume 116. J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi et j'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Mais j'invoquai le nom de l'Éternel, ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste, notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples, j'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais « Je suis bien malheureux ». Je disais dans mon angoisse tout en mes trompeurs. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens, je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout le peuple, dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem. Louez l'Éternel. Et je vous invite, après ce chant, à avoir un moment de prière et de louange. Je t'exalterai, Seigneur.
Parmi toutes les
Nous continuerons notre moment par ce chant feu du fondeur. Saviez-vous qu'il faut une chaleur de plus de 1000 degrés pour faire fondre de l'or et le purifier? C'est une chaleur extrême, mais nécessaire, sinon le résultat est imparfait. L'or aurait des impuretés qui perdraient de sa valeur. Dans la première épître de Pierre, cette même image est donnée pour parler des épreuves par lesquelles notre foi peut passer. Et c'est dans ce texte que nous allons lire, dans 1 Pierre, verset 1 à 9. De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, à vous qui avez été choisis, conformément à la préscience de Dieu le Père et conduits à la sainteté par l'Esprit, afin de devenir obéissants et d'être purifiés par le sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse, parce que vous obtenez le salut de votre âme pour le prix de votre foi. Dans un premier temps, on peut se poser la question, qui est l'auteur de cette lettre? Et comme son nom l'indique, il s'agit de l'apôtre Pierre. Et dans les évangiles, nous apprenons à connaître Pierre. Pierre qui est le pêcheur de poissons, un homme simple, issu du peuple, qui a été appelé par Jésus à le suivre et qui sera désigné par celui-ci comme son apôtre. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 21, versets 18 et 19, on lit « Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu tendras les mains et c'est un autre qui attachera ta ceinture et te coudira où tu ne voudras pas. » Il de cela pour indiquer par quelle mort Pierre révélerait la gloire de Dieu. Puis il lui dit « Suis-moi ». Pierre a su, dès le début de son ministère, qu'une mort pénible l'attendait. Mais Jésus lui dit « Suis-moi ». Nous pourrions dire que Jésus lui demande « Suis-moi, quel que soit le prix à payer ». Et en effet, selon la tradition chrétienne, l'apôtre Pierre est mort crucifié à l'envers, peu de temps après la rédaction de son épître. Mais quel est le contexte de cette épître ? Cette lettre a été écrite dans un contexte de persécution contre les chrétiens de l'Empire romain. Elle est destinée aux chrétiens d'Asie mineure, qui est la Turquie actuelle, pour les préparer et les exhorter à tenir bon en temps d'épreuve. C'est comme si aujourd'hui, un chrétien d'Afghanistan ou d'Irak écrivait une lettre à ses frères persécutés, pour les encourager à des conseils et à tirer une expérience de leur même souffrance. Cette solidarité au corps du Christ est l'une des forces de l'Église persécutée aujourd'hui en Afghanistan et ailleurs. C'est surtout aujourd'hui, on pense à l'Afghanistan, parce que c'est un des pays malheureusement en tête de liste. Et la situation en Afghanistan, il nous donne un peu un petit résumé ici. L'Église secrète d'Afghanistan est mise à rude épreuve. La prise de pouvoir par les talibans en août 21 a encore durci la répression contre les chrétiens, ce qui a conduit le pays à la première place de l'index mondial de persécution. Des chrétiens ont fui, d'autres sont restés. La très petite communauté actuelle des chrétiens afghans fait tout pour maintenir le lien entre ses membres. Et voilà ce qu'ils disent. Nous nous appelons les uns les autres dans le seul but de rester connectés. C'est une chrétienne rescapée qui dit ça. Mais revenons à notre chapitre de Pierre, qu'elle est dans les grandes lignes du chapitre 1. Le premier chapitre de 1, Pierre parle beaucoup d'espoir. Pierre rappelle aux croyants leur position qui est bénie. Ils ont été appelés, ils ont été gardés. Et il les enseigne aussi sur leur responsabilité et leur devoir d'être des disciples et de vivre dans ce monde comme un peu des étrangers, mais à subir parfois la persécution. Et plusieurs fois dans sa lettre, Pierre annonce à ses lecteurs qu'être chrétien, c'est accepter d'être résident temporaire. On n'est là que de passage. Et qu'ils sont amenés à subir parfois une opposition du monde très forte. Suivre le Christ, être prêt à passer par l'épreuve du feu. Et nous allons un peu développer cette image de cette épreuve. En premier point, c'est la raison. La raison de l'épreuve. Pourquoi ? Pourquoi l'épreuve ? Il est intéressant aussi de voir qu'avant de parler l'épreuve, parle, rappelle, la raison pour laquelle ses lecteurs sont dans la souffrance. Parce qu'ils aiment Dieu. On dirait tout simplement parfois, parce qu'on aime Dieu, on est dans la souffrance. Mais il est bon de préciser que ce texte ne s'applique pas forcément à toutes les souffrances. On le sait. Ici, il s'agit des épreuves qui viennent pour ébranler notre foi, nous secouer, mettre la foi à l'épreuve, et non des conséquences d'une mauvaise action. C'est parce que simplement, on est croyant, et on a la foi. Au chapitre 4, verset 16, il est dit « Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte. Au contraire, qu'il rende gloire à Dieu dans cette situation. » Et si on revient au verset 3, nous lisons « Béni soit Dieu ». Dès le début de sa lettre, l'apôtre nous invite à regarder à celui qui est digne de nos louanges, malgré tout ce qui nous entoure. Et c'est lui qui nous a choisis. Ensuite, l'apôtre liste trois bénédictions qui découlent de notre foi en Dieu, les versets 3 et 4. « Il nous a donné une vie éternelle, et nous avons une espérance vivante. » Et Dieu nous réserve des biens qui ne peuvent ni disparaître, ni salir, ni perdre leur éclat. il y a de l'espoir, il y a une espérance. Dieu nous garde dans cette espérance de salut éternel au sein de la Trinité. Au verset 2, nous le voyons parfaitement, que Dieu le Père nous vous a choisi conformément au plan qu'il a établi d'avance. Il vous a mis par l'Esprit Saint pour que vous obéissiez à Jésus-Christ. Ils sont là tous les trois. On a tout ça pour nous. Dieu le Père, Fils et Saint-Esprit. Cette introduction de l'Épître de Pierre était nécessaire avant de parler réellement de l'épreuve. Il est bon de se rappeler pourquoi aussi nous sommes prêts à souffrir. Est-ce que ma confiance en Dieu est-elle limitée? Et quelle est la valeur de mon engagement envers Jésus? Quelle est cette valeur? Éprouver la par le feu, deuxième point, c'est l'épreuve est nécessaire. Et si on relit 1 Pierre 1, c'est cela qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. J'aime bien le « un peu de temps ». Les versets précédents nous ont rappelé que notre vie et notre salut viennent de Dieu. Et le début du verset 6 est la conclusion des 5 premiers versets qui dit « voilà, voilà toutes les choses qui font votre joie ». Il est intéressant de relever que la phrase ne finit pas là et qu'immédiatement après, Pierre ajoute « quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves ». Il dit en substance « vous êtes dans la joie et vous êtes triste ». Il dit ça dans la même phrase. On est dans la joie et on est triste. Pierre parle évidemment des épreuves du présent, maintenant. Il explique que c'est une nécessité de traverser, puisqu'il faut maintenant, puisqu'il faut. Et dans le grec, le mot pour falloir est déi et suggère une obligation. Il faut. C'est bien rendu en français. On n'a pas le choix. Il faut le faire. C'est une contrainte, une obligation survenue d'une décision de Dieu. Pierre dit que ces temps durs apportent la tristesse. C'est sûr que quand on est dans l'épreuve, quand on la traverse, mais que c'est pour un temps limité, par Dieu. C'est lui qui décide de la durée de l'épreuve. Ça, c'est chouette, de savoir que Dieu est aux commandes de tout. Pierre déclare de manière très directe les conséquences du choix de Jésus ou de suivre Jésus, être accablé par toutes sortes d'épreuves. 2 Timothée 3, verset 12 nous dit déjà « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » On est prévenu, on sait. Mais alors ne soyons pas étonnés de connaître des tempêtes dans notre vie. Jésus n'a jamais promis une vie facile et paisible. C'est même le contraire. Il nous a juste promis de nous accompagner. Et ça, c'est chouette. Notre foi plus précieuse que l'or. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu. Dans l'Antiquité et même aujourd'hui, pour révéler la bonne qualité d'un alliage, on soumettait les métaux à l'épreuve du feu. On les chauffe, on les fait couler. Et l'or était chauffé à plus de 1000 degrés dans un creuset poreux. L'or fondait et les impuretés remontaient à la surface. Le fondeur ajoutait au creuset un peu de plomb et une fois brûlé, il permettait aux impuretés de s'agglomérer autour de ce creuset et ainsi de révéler l'or uniquement. On utilise encore aujourd'hui cette méthode appelée la coupellation. Je dis tout parce que les détails sont là et ça doit être génial de faire ce genre de truc et tout qui s'écarte comme ça et qu'on voit l'or comme ça pur, quoi. Ainsi, quand Pierre dit de notre foi est plus précieuse que l'or, il nous explique que c'est seulement en passant par l'épreuve du feu, que nous pourrons réellement voir la valeur de notre foi. Imaginez, on écarte les impuretés et on voit notre foi. Les difficultés par lesquelles nous passons révèlent la qualité de notre consécration et de notre confiance en Jésus-Christ. Le feu épure tout ce qui nous empêche de vivre pleinement dans la paix et l'assurance de Jésus-Christ. Nous voyons évidemment dans le livre de Job, pour le citer, au chapitre 1, que Satan accuse Job d'être fidèle à Dieu. C'est parce que Job est fidèle à Dieu qu'il passe par l'épreuve, qu'il est secoué. Dieu va donc permettre que Job soit éprouvé par le feu avec une seule limite laissée au diable, tu ne prendras pas sa vie. Heureusement. Et en lisant la suite du livre de Job, nous pouvons voir que, malgré les souffrances terribles qu'il a pu vivre, il savait que garder sa foi en Dieu avait plus de valeur que tout le reste. Voilà ce qu'il est écrit dans Job. « Cependant, Dieu sait bien quelle voie j'ai suivie, qu'il me passe au creuset, j'en sortirai pur comme l'or. Car j'ai toujours suivi la trace de ses pas. J'ai marché sur la voie qu'il a prescrite. Je n'ai pas refusé d'obéir à ses ordres. J'ai fait plier ma volonté pour obéir à ses paroles. » Nous n'aurons pas tous, évidemment, à vivre de telles épreuves aussi extrêmes que celles qu'a vécu Job, mais nous pouvons quand même un peu nous identifier à ces paroles, dans ce que nous vivons. Sans avoir vécu aussi en Afghanistan, certains d'entre vous ont probablement vécu parfois des rejets ou des moqueries à cause de votre foi. Ah, tu es chrétien, toi. Mais bonne nouvelle, la preuve que vous êtes sur la bonne voie. Quand on se moque de nous, quand on se moque de vous, c'est que Dieu est là et que nous sommes sur le bon trajet. Mais Dieu ne permet pas que ces souffrances soient une punition pour nous. Les témoignages de nos frères et sœurs persécutés nous édifient et peuvent nous inspirer dans nos propres souffrances. Et aujourd'hui, certains sont parfois littéralement éprouvés par le feu. Ici, telle est l'histoire d'un monsieur qui s'appelle Gédéon. Je ne vais pas vous raconter son témoignage. Il y a une petite vidéo qui montre très bien ce qu'il a vécu. Je fais juste passer qu'il est resté 6 ans en prison et qu'il était chrétien. Je passe et nous verrons ça juste à la fin. Troisième point, les résultats de l'épreuve. Le texte fait une boucle au début du verset 1 à 6. Pierre nous exhorte à louer Dieu. Puis, après nous avoir annoncé qu'il est nécessaire que nous vivions diverses épreuves, il nous ramène à la louange. On loue l'épreuve, on loue. Fruit de la valeur éprouvée par notre foi. Voilà ce que 1 Pierre 1, 7 nous dit. Aura pour résultat la louange. Le résultat, la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore. Et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse parce que vous obtenez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi qui a été épurée par le feu. Certains de nos frères et sœurs persécutés, mais aussi certains membres de nos assemblées, ne voient pas la fin de leur souffrance ici sur terre, mais leur récompense est céleste. Parfois, ici, il y a des gens qui souffrent, on dit « Ah, pourquoi ?» Il est évident que la récompense de notre Dieu est céleste. Mais d'autres sortent de la tempête et ils peuvent témoigner du travail que Dieu a accompli en eux, grâce au feu des épreuves. Tel est le témoignage ici de Rebecca, là, que je vais vous lire. Ce dimanche de Pâques 2019, Rebecca se trouvait à l'église Zion de Batticaloa, au Sri Lanka. Mais la fête a tourné au cauchemar lorsqu'un terroriste kamikaze portant des explosifs a pénétré dans le bâtiment. 3 églises et des hôtels ont été ciblés simultanément ce jour-là, faisant plus de 250 morts et des centaines de blessés. Rebecca a été brûlée au 3e degré. Sa sœur, son beau-frère et son neveu ont été tués. Malgré cette épreuve terrible, tous ceux qui la côtoyaient ont constaté que Rebecca fait preuve d'un courage extraordinaire. Voici ce qu'elle déclare. « J'ai tellement de paix dans mon cœur, je sais que Dieu fait tout pour notre bien. » parce que je l'ai expérimenté dans ma vie. Rebecca s'est mariée en avril dernier avec un fils de pasteur. Elle doit encore subir des opérations chirurgicales. Il nous demande de prier pour sa guérison totale. Les circonstances horribles que Rebecca a vécues n'ont pas altéré sa foi, au contraire. Et sa relation avec son sauveur s'est encore approfondie. Ce témoignage doit nous encourager et rejoint Pierre dans ce qu'il dit. On est sauvé pour l'éternité, mais nous devons accepter que notre foi puisse être mise à l'épreuve, éprouvée, attristée, mais toujours confiante. Le verset 7 nous affirme que le résultat de l'épreuve du feu est la louange, la gloire et l'honneur. Attention, évidemment, bien sûr, certains peuvent faire cette expérience lors de leur vie terrestre, mais le texte annonce bien que lorsque Jésus apparaîtra, ce sera terminé. le résultat sera fini. Romains chapitre 8, au verset 18, confirme cette pensée. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Pierre va d'ailleurs continuer d'en parler un peu plus loin dans cette même épître. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. C'est difficile, mais quand on a réellement cette foi, il faut l'accepter. Et puis, on a un témoignage aussi d'un jeune chrétien du Nigeria qui se réjouit. Il se réjouit de son épreuve. Je ne vais pas lire le texte non plus, parce que moi, quand je l'ai lu, c'est trop dur. C'est trop dur parce qu'il a vu son père et ses parents, ses frères et sœurs devant lui tués. Quoi. Il ne l'écrit pas parce que c'est trop horrible. Et voilà ce qu'il nous dit. Donc lui, il en est sorti. Nous avons vécu ce drame parce que nous sommes chrétiens. Il essaie de nous avoir à l'usure, de nous tuer et de s'emparer de nos biens. Ils nous ont demandé de renier notre foi, de nous tourner vers l'islam. Notre père a refusé. Pour lui, rien n'avait plus de valeur que vivre pour le Christ, et il croyait que la mort était un gain. Il n'a pas renié tout ça, même au moment de sa mort. Il était comme ça, notre père. Les terroristes nous ont alors demandé à mon frère et à moi de renier notre foi, et nous avons également refusé. J'ai dit que je ne renierais pas Jésus, que si je devais mourir, ce serait comme mon père en chrétien. Ils ont répondu, alors on va te tuer. Mais nous sommes toujours vivants, pour attester de la gloire de Dieu. En fait, son frère et lui ont réussi à faire le mot, façon de parler. Quoi. Et c'est un peu ça qui les a sauvés de l'instrument. En conclusion, si nous survolons cette épître complète, c'est une épître qui a été faite au travers d'une épreuve, au travers d'un climat de persécution, mais il y a de l'espérance. Chapitre 1, verset 13, voilà ce que Pierre nous dit, il faut espérer. Un peu plus loin, c'est être saint, vivre en révérant, aimer, progresser en se nourrissant de la parole, être des pierres vivantes, un temple pour Dieu, avoir une bonne conduite au milieu des incroyants, pratiquer le bien et surtout suivre l'exemple de Jésus-Christ. Voilà, c'est une épître encourageante. Et pour terminer, voilà ce qu'il nous est proposé de relire. Ce texte bien-aimé, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances du Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Je vous invite à visionner cette petite vidéo qui nous a été envoyée. J'ai découvert ce film avec vous et je me dis, on voit tellement de films à la TV irréels. Et on parle beaucoup de télé-réalité. Je me suis dit, mais ça, c'est de la télé-réalité. Ça, c'est du vrai. Ça, c'est du témoignage. Ces choses peuvent nous attrister, mais qu'elles nous encouragent parce que ceux qui vivent et comment ils en sortent, il n'y a que Dieu qui peut les soutenir. Il n'y a que l'œuvre de Jésus-Christ qui peut mener à ça. Je vous invite à la prière qui nous a été envoyée. Seigneur Jésus, tu sais ce que c'est de faire face à l'injustice et à la haine, de se cacher de ceux qui veulent t'attaquer et de garder le silence face à tes accusateurs. Sois avec tes disciples en Afghanistan, avec tous ceux dans le monde qui doivent rester cachés, protège-les, empêche-les d'être découverts. Rassure-les sur le fait que leur vie est cachée en toi. Puissions-nous parler en faveur de ceux qui n'ont pas de voix et utiliser notre liberté pour subvenir aux besoins de ceux qui n'ont rien. Ne nous taisons pas, Seigneur. En ton nom, nous te prions. Amen. En Jésus seul est mon espoir. En Jésus seul est mon espoir.